13h-14h, Michel Cardoz, Histoire des Suds, sur Sud Radio.
Révolte et résistance au coup d'État du 2 décembre 1851, nous sommes sur l'affaire, sur l'histoire d'un crime, comme dirait Victor Hugo depuis le début de la semaine. Nous changeons d'invité aujourd'hui parce que nous changeons un peu de région. Nous parlons du bassin de la Garonne avec Jean-Paul Damadio, historien spécialiste, pas seulement du Tarn-et-Garonne où il vit, mais également de ce qui s'est passé dans l'Haute-Garonne, dans le Gers, dans la Haute-Garonne, dans le Tarn, dans le, etc., etc. Enfin, dans tout le bassin de la Garonne. Bonjour Jean-Paul Damadio.
Bonjour.
Quels ont été les faits tout de suite après que la nouvelle soit parvenue par le télégraphe ou par d'autres moyens?
Oui, le dans télégraphe, même à Toulouse.
Le bassin garonnais. Quels ont été les faits face à ce coup d'État du 2 décembre 51?
Alors, donc, les faits, il faut les distinguer entre les chefs-lieux de département, mm-hmm. qui ont été avertis, bien sûr, les premiers, en particulier Toulouse. Mm-hmm. Toulouse a été avertie presque dans l'instant, avec les moyens modernes qui étaient installés, ce qui fait que, à cet endroit-là, ils ont été 60 aussitôt à faire une pétition pour demander la destitution du prince président qui avait fait ce coup d'État. De ce fait, évidemment, ils ont été tout de suite tous arrêtés et il n'y a pas pu y avoir de véritable mouvement en Haute-Garonne, sauf un petit peu dans Villefranche de Lauragais.
Alors, vous parlez de 60 personnes, mais vous dites, ils, qui sont-ils? C'est d'un mot?
C'est d'un mot, donc, c'est à partir d'un journal qui s'appelait L'Émancipation, mm-hmm. hein, et dont on en parlera peut-être tout à l'heure. Mm-hmm. Ce sont donc les, on va dire, une petite bourgeoisie sociale, d'artisans, et donc de journalistes, d'avocats.
Les lecteurs les plus actifs politiquement, quoi.
Exactement,
qui ont
bénéficié donc, de toute la période de la Seconde République pendant 2 ans pour se déployer.
C'est,
voilà. Exactement. Alors
dans les autres départements.
Dans les autres départements, la chose va être tout à fait différente suivant les départements. Donc le Tarn-et-Garonne, lui, est un tout petit département. J'en parle parce que c'est de là que je viens et on peut, à travers cet événement, voir venir quelque chose d'original. Donc, ceux de Castelsarrasin s'orientent vers Toulouse pour avoir des informations. Ceux de Moissac, eux, s'orientent vers Agen. Mmh. Ce qui montre que, encore à ce moment-là, le Tarn-et-Garonne n'a pas une unité. Inversement au Gers, où c'est que là, il y a une unité. Mmh. Toutes les forces essaient de s'orienter vers Auch.
Alors, les forces, c'est quoi? Quelques jours, il y a...
Alors, donc, en 2-3 jours, ce sont souvent des forces populaires, des forces paysannes, des forces de ceux que Maurice Aguillon appelle la République des village, mm-hmm. qui est né pendant la Seconde République et qui n'accepte pas ce coup d'État.
Alors, sous quelle forme il l'accepte?
Alors, donc, la première des choses, bien sûr qu'il va y avoir deux tendances. Une tendance qui veut prendre les armes et une tendance qui dit, bon, il faut quand même rester modéré. Mm-hmm. Dans le Gers, c'est la tendance qui dit, il faut prendre les armes, qui va l'emporter un petit peu aussi, un petit peu même beaucoup dans le Lot-et-Garonne, mm-hmm. alors que dans un département comme le Lot, ça sera moins le cas. On parlera peut-être plus tard du cas de l'Aveyron, qui est encore, encore plus original. Mais cette
alors,
idée...
Alors concrètement, dans les villes du Gers, par exemple, ça s'est passé, voilà, comment? On s'est rassemblés, on a marché?
Oui,
on a...
concrètement, donc, il y a dans les villages alentours, parce que les chefs-lieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chefs-lieux, eux, sont sous contrôle de l'armée. Alors ce qui fait que ce sont toujours des forces des villages alentours qui se regroupent, on va dire un millier de personnes, qui prennent des armes et qui s'orientent avec l'objectif de prendre la préfecture pour y installer la République
alors, ils viennent de Condom.
Beaucoup de Vic-Fransac, beaucoup moins de Condom, qui est un petit peu plus à l'écart. C'est beaucoup qui viennent de Vic-Fransac et qui entraînent sur leur route, c'est une colonne comme la colonne qui va partir de Nérac vers Agen, qui entraîne sur sa route on va dire un millier de personnes.
Alors au même moment de Nérac, il y a une colonne aussi qui s'en va vers Agen.
Qui s'en va vers Agen de la même façon. Mmh. Et donc, pour Auch, ils arrivent et les chefs négocient une nuit de trêve. Ce qui fait que, bien évidemment, l'armée se prépare, elle, à ne pas respecter la trêve. Et pendant la nuit, ils vont intervenir pour arrêter les chefs. Et on en parlera aussi de la répression. Mmh. Il suffit, bien sûr, d'arrêter quelques chefs pour qu'ensuite, cette foule, parce que c'est quand même des foules pour l'époque, elle va se débander. Parce qu'en vérité, ce ne sont pas des gens qui sont, comme dans les jacqueries d'avant la Révolution, qui sont venus pour faire le coup de poing. Ce sont des gens qui sont venus pour faire respecter le droit.
La loi.
La loi.
Voilà, alors, c'est leur but. Et à Agen, ça s'est passé comme à Auch, c'est-à-dire que l'armée est sortie aussi.
L'armée est sortie aussi, mais elle est sortie beaucoup plus à Marmande. Ah. Et à Marmande, donc là, il a fallu un siège. C'est un endroit qui, sur les cartes des révoltes armées, c'est l'endroit le plus chaud du département du Lot-et-Garonne. Parce que bien sûr que là aussi, le département du Lot-et-Garonne, avec Villeneuve-sur-Lot d'un côté, Nérac de l'autre côté et Marmande de l'autre côté, est un petit peu aussi éclaté.
Éclaté, oui. Voilà.
Mais il est sûr que à Agen, ceux qui par exemple étaient de Moissac qui sont allés chercher leurs ordres à Agen on leur a dit il faut prendre les armes. Tandis que ceux qui sont allés à Toulouse pour demander les consignes, on leur a dit bon ben écoutez c'est perdu. Quoi. Voilà un petit peu une différence géographique.
Alors vous citiez l'Aveyron, qu'est-ce qui s'est passé là ?
Donc l'Aveyron, bien sûr que l'Aveyron a une image un petit peu de département réactionnaire, on peut le dire.
Clérical, disons.
Clérical, etc. Voilà. Mais l'Aveyron, comme tout département, a plusieurs facettes. Et la facette, évidemment, la plus originale, c'est la facette autour de Villefranche-de-Rouergue, et en particulier à Sauveterre, une belle bastide. Vous avez fait une émission sur les bastides, et c'est un facteur qui joue aussi dans la sociabilité. Donc, à Sauveterre, il va y avoir là aussi un groupe de 100, 200 qui vont aller sur Rodez, mais qui vont être arrêtés en route. Ils ont failli prendre Rodez. Alors l'originalité, donc, c'est que c'est un courant qui est beaucoup plus donc lié au catholicisme social. C'est-à-dire que ils n'ont pas ce courant de révoltés et qui, pendant la Seconde République, s'est activé, a eu beaucoup d'appui de curés rouges qui étaient dans ce secteur et qui, bien sûr, après le coup d'État, vont être balayés complètement par la hiérarchie catholique, dont on sait qu'elle va reprendre, avec Napoléon III, les rênes de l'affaire. Et c'est quelque chose qui, dans l'histoire du catholicisme social, est très très importante, parce que la filiation reviendra plus tard, mais elle reviendra.
On va marquer une pause, et puis
merci.
On va examiner dans quelques minutes la presse, le rôle de la presse départementale. Histoire des Suds, révoltes et résistances contre le coup d'État du 2 décembre 1851 dans le Midi Garonnais, dans ces départements autour de Moissac, de Montauban, d'Agen, de Marmande, de Nérac, de Auch, de Vic-Fezensac, qui s'est beaucoup illustré. Le rôle de la presse, nous l'examinons avec notre invité Jean-Paul Damaggio, historien. Alors, la presse locale, départementale a joué un rôle.
Voilà, la presse a joué un très très grand rôle. Et c'est pas pour rien, bien sûr, que dès que le coup d'État arrive, parmi les éléments de répression, ça va être la fermeture des journaux républicains et des journaux démocratiques. Et dans la différence départementale de réaction, il est évident que là où il y avait un journal qui existait de manière régulière...
Donnez un exemple.
On va donc donner comme exemple, justement, l'Aveyron. L'Aveyron avait un journal qui s'appelait l'Aveyron républicain, qui est consultable, bien sûr, aux archives départementales de l'Aveyron, et qui est une mine de renseignements sur tout ce qui s'est passé pendant la Seconde République.
C'est-à-dire que la vie politique républicaine passe par cette presse départementale.
Bien sûr, c'est eux qui organisent. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, les scrutins électoraux sont, les scrutins de députés, sont des scrutins départementaux. Il n'y a pas de découpage par circonscription. Donc, il y a la difficulté pour les républicains de pouvoir avoir des candidats communs. Et ce sont les journaux qui jouent ce rôle unificateur pour équilibrer les différentes zones du département. Donc l'Aveyron républicain, lui ne va pas avoir de soucis pendant toute la Seconde République. Et donc il arrive en 1851, au 2 décembre, toujours très fort. Dans le Gers, par contre, le réformateur et le radical, eux, vont avoir beaucoup de difficultés.
C'est deux titres, réformateur et radical.
Voilà, vont jouer aussi un rôle, mais un rôle plus difficile, puisqu'on comprend qu'il y a deux tendances plutôt marquées. Bon, bien sûr que
le radical est plus à gauche.
Est plus à gauche, voilà. Pour Toulouse, donc il faut bien rappeler l'émancipation. L'émancipation qui va renaître ensuite avec la Troisième République et qui va devenir le journal des socialistes. Donc qui est un titre très beau, bien sûr, d'une part, mais donc un titre qui joue un rôle très important, dirigé par un personnage qui s'appelle Duportal et qui fait aussi figure. Le journal est un lieu d'apprentissage de la démocratie complète de la démocratie électorale.
Au fond, les journaux départementaux jouent le rôle des partis d'une certaine
Exactement.
Manière.
Exactement, bien sûr, puisque...
Donc ces journaux, avec quoi? Avec des journalistes, des rédacteurs, des lecteurs plus actifs les uns que les autres? Qu'est-ce qui se commence? Comment ça se passe?
Et tout à fait intéressant la question, parce que généralement il y avait un journaliste professionnel qui faisait tourner la boutique. Les lecteurs, ce sont les lecteurs dans les cabarets. Mmh. Hein. Et donc ça, c'est aussi un facteur dont on pourra parler tout à l'heure à la fin, sur le côté culturel. Dans les cabarets, donc ces journaux sont lus et ils jouent ce rôle de formateur qu'ont joué ensuite les partis politiques.
René Merle nous racontait qu'à propos du Var et des Basses-Alpes ou des Bouches-du-Rhône, les échoppes de cordonniers, par exemple, jouent ce rôle, ou évidemment les cercles républicains, les cabarets jouent effectivement ce rôle. Le rôle de chambré, hein, c'est-à-dire ces endroits où on se réunit pour lire le journal et pour commenter les nouvelles et au fond s'organiser. On peut employer ce terme, s'organiser politiquement.
S'organiser, non, mais bien sûr, il faut employer ce terme et c'est d'ailleurs une des raisons du coup d'État, hein, puisque Napoléon III et toute la bourgeoisie voient cette organisation populaire qui gagne et qui marque des points parce que elle sait parler au peuple, et en particulier donc ces journaux-là savent à la fois tenir compte des situations locales, ils savent en même temps faire l'écho des décisions nationales et ils jouent ce rôle de formation politique très clair.
Alors, quel type de revendication, on peut employer aussi ce mot, se mêle à la question du droit et du simple respect de la Constitution qui est violée par le prince-président qui, je le rappelle,
Élu au suffrage universel et par son coup d'État, rétablit le suffrage universel qui avait été mis en cause en partie
par l'Assemblée nationale.
Et donc ça, c'est toute l'astuce. Mmh. Et c'est pour ça que j'appelle mon bouquin « La dictature à la française ».
Avec un point d'interrogation.
Avec un point d'interrogation, parce que c'est ce phénomène, il fait un coup d'État pour réinstaurer le suffrage universel. Mais un suffrage universel sans droit d'association, sans droit de liberté de la presse et sans possibilité de manifestation et de réunion.
Alors, je vous ai posé une question. Quels sont le type de revendications? Par exemple, dans une population mêlée comme dans le Gers ou dans le Lot-et-Garonne, avec beaucoup le poids de la paysannerie, est-ce que ces paysans démocrates, au-delà du respect de la loi, est-ce qu'ils ont des revendications?
Ils ont bien sûr les revendications typiques de la petite paysannerie qui souhaite pouvoir accéder
à la propriété,
qui souhaite pouvoir manger correctement et qui souhaite pouvoir aussi avoir quelques loisirs, pouvoir donc aller au cabaret, puisque cette révolte, qui est une révolte, va être une révolte sociale en même temps que politique. Et c'est ce lien très, très, très original de la Seconde République où la revendication pour le droit est en même temps une revendication sociale.
Mais alors là, on comprend bien que les élites, même les élites républicaines, ne suivent pas ces mots d'ordre parce que eux, ils ne sont pas vraiment favorables à des revendications plus sociales.
Je vais nuancer. Je vais nuancer en prenant l'exemple d'un cas qui s'appelle Cozanel, qui est un personnage fabuleux du Lot-et-Garonne, de l'Aveyron, pardon, qui est banquier et négociant, qui sera condamné par le coup d'État, qui va essayer de fuir en Espagne, qui va réussir à fuir en Espagne. Pour lui, c'est un philanthrope, c'est un franc-maçon, et il est banquier. Socialement, effectivement, il devrait être du côté du pouvoir. Et les gens du pouvoir le montre du doigt plus que les autres en disant comment c'est possible que des gens qui sont banquiers puissent être du côté du peuple. Mais lui, il considère que si on rend service au peuple, on rend service à toute la société, et y compris aux riches. Mmh. Et il y a toute une partie donc qui se forme dans la franc-maçonnerie et qui participe un petit peu à ce courant.
Si je comprends bien, René Merle, nous en a déjà parlé aussi pour le Var et les Hautes-Alpes, mais si je comprends bien, la franc-maçonnerie laïque a joué un rôle là dans ces départements importants.
Bon, on n'a que des noms par-ci, par-là, mais elle a joué un rôle parce que, bien sûr, que du point de vue de l'organisation, il fallait se structurer et que la structure était plus ou moins là.
Déjà prête.
Déjà prête, par exemple, ce Cozanel, donc, qui va essayer de fuir à Toulouse chez un ami. Ensuite, il fuit, il passe par le Gers, où c'est qu'il a la douleur, dans la diligence, il est assis à côté de flics, et il a la douleur de voir des soldats qui fusillent des républicains. Voilà, donc c'est incroyable.
On va marquer une pause et à propos de fusillade, on va parler dans un instant de la répression contre les révoltés. Histoire des Suds, avec la résistance et les révoltes contre le coup d'État du 2 décembre 1851 dans le bassin de la Garonne. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Damadio, historien, et nous évoquons, après les révoltes elles-mêmes, après le rôle de la presse départementale qui a joué ce rôle de fédérateur des opinions et d'organisateur d'une certaine manière de la révolte, nous parlons maintenant, au bout de quelques jours, c'est l'échec des révoltes. L'échec, il est pas tant à partir de quoi? Du 10, du 11, du 12 décembre?
Ben, suivant les endroits, mais enfin, c'est sûr que le 10 décembre,
c'est plié.
Et donc,
et la répression, le rouleau compresseur de la répression entre en action.
Et le rouleau de la répression entre en action. Et alors, la surprise, un petit peu, c'est de voir l'écart entre les faits reprochés et les peines encourues.
Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'avoir marché sur la route, d'avoir brandi des fusils?
Le paradoxe pour ces gens-là qui se battaient pour le droit, et le droit constitutionnel, puisqu'il était écrit dans la Constitution, que s'il y avait coup d'État contre la Constitution, il fallait se révolter. Donc c'était écrit. Et ils vont simplement donc prendre les armes ou simplement s'exprimer, et ils vont être arrêter et ensuite subir des peines phénoménales. Donc la plus phénoménale, c'est évidemment l'envoi à Cayenne. On peut trouver, y compris dans le Tarn, par exemple. On n'a pas parlé du Tarn, où c'est que la révolte a été très forte du côté de Mazamet. Des personnes ont été envoyées à Cayenne, puisque pour simple
on
fait...
On disait pas déporter à l'époque, disait transporter.
Transporter à Cayenne. Ça, c'était la première peine. Et bon, si on veut voir, par exemple, par rapport au Gers, donc, on va trouver 461 personnes, imaginez dans le Gers d'aujourd'hui, si on élimine 461 personnes, avec donc ce que j'appelle des peines fortes. Après Cayenne, il y avait l'Algérie, envoyé en Algérie, Algérie plus ou Algérie moins. Algérie plus, c'est quand les gars ils étaient en Algérie en prison. Oui. Algérie moins, c'est quand ils pouvaient avoir une petite propriété pour travailler, mais sous contrôle, bien évidemment, de la répression des policiers. Ça, c'est les peines forte. Parmi les peines faibles, donc 464, donc ce qui fait presque 900 personnes condamnées dans le Gers. Les peines faibles, ce sont les peines, les premières, donc...
emprisonnement, peut-être.
Exilé, bon. Donc là, mais là, on peut partir en principe où on veut, sauf en Espagne pour les gens du Sud. Donc, on voit, par exemple, donc, le cafetier, donc j'ai beaucoup étudié le cafetier, et donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, donc, sur le rôle des cafés, Bousquet, il s'appelait Bousquet à Moissac, donc il a été obligé de s'exiler à Guernesey. Il est mort de mal du pays trois ans après.
Il a dû papoter avec Victor Hugo quand même.
Exactement, c'est Victor Hugo, qui a fait sur sa tombe son discours. Donc, avec les éditions La Brochure, nous avons republié ce discours de Victor Hugo pour ce cabaretier et pour tant d'autres. Donc ça, c'est l'exil. Donc
il y en a qui partaient en Angleterre, d'autres en Espagne, mais à condition de
pas Espagne, être proche. En Espagne, ils pouvaient pas. Ceux qui partent en Espagne, ce sont ceux qui ont pu fuir avant de se faire arrêter. Mais les autorités obligeaient, y compris les gens du Sud, à partir en Espagne.
En Angleterre ou en Belgique.
Voilà. Ensuite, donc, c'est effectivement l'emprisonnement et ensuite la mise sous surveillance. Donc, si on prend la région Midi-Pyrénées, donc je donne 683 personnes qui subissent des peines très fortes et 992, c'est-à-dire presque 1000 personnes, qui subissent des peines considérées plus faibles, mais qui mettent un chapeau sur toute la vie sociale.
Et est-ce que ces gens sont privés de leurs droits civiques, par exemple?
Ils sont privés de leurs droits civiques. Et alors, ce qu'il faut aussi ajouter, on dit Victor Hugo, donc Victor Hugo, mais Victor Hugo aurait pu revenir, à condition de signer un papier comme quoi il faisait allégeance à Napoléon III. Ce qui fait que parmi ces déportés, et en particulier Duportal, dont je parlais tout à l'heure pour l'émancipation,
à Toulouse,
eh bien lui, la vie familiale, etc., il a accepté de signer un papier d'allégeance comme quoi il ne ferait plus de politique et pour pouvoir revenir, faire vivre sa famille. Et en 1871, on va lui reprocher d'avoir signé ce papier. Ce sont toujours ces questions de la vie militante qu'on a croisé dans bien d'autres cas.
Mais René Merle évoquait la figure d'Émile Ollivier, qui, après avoir été un opposant au coup d'État, est devenu ministre de l'Empereur à la fin de l'Empire. Donc, il y a comme ça des choix de destin politique qui sont quelquefois surprenants, mais bon, voilà. Alors, on parle de la répression. Et au moment moment du plébiscite qui a suivi immédiatement le coup d'État, au mois de décembre, les départements révoltés, enfin partiellement révoltés, ont fait comme les autres.
Ils ont fait comme les autres du point de vue du vote. Et bon, il faut donc... C'était pas un vote, je pense pas que ce soit un vote truqué dans le sens du bourrage des urnes, mais dans le sens où la peur, il faut imaginer une peur terrible, y compris dans les campagnes. Bon, les maires qui sont destitués, ça aussi, ça fait partie de la répression. La Seconde République avait accepté d'élire les maires par le conseil municipal. Et à partir du coup d'État, les maires donc sont sous ordre ou du préfet pour les petites villes ou du président. Et on sait que ça a duré à Paris jusqu'à 1977, si je ne me trompe pas, où c'est que le maire de Paris n'était pas élu par les citoyens. Alors, voilà, c'est tout ça qui fait que au moment du plébiscite, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Et donc, dans cette vague de découragement, bien sûr, les citoyens ont plébiscité
Louis-Napoléon,
le futur empereur.
Voilà. Alors, on a parlé de la presse tout à l'heure. Est-ce que cette presse a cessé totalement de paraître ou bien est-ce qu'à un moment donné, elle a ressurgi d'une autre manière?
Elle a été obligée de disparaître totalement, sauf une petite exception dans le Tarn, où c'est que le journal a eu une faveur pour durer jusqu'à 1852, le journal républicain.
Il s'appelait comment ce journal?
Donc il s'appelait Républicain.
Le Républicain, tout simplement.
Et ça, pour moi, c'est quelque chose de comment dirais-je, c'est un couperet énorme du point de vue de la formation politique des personnes. Sans ce journal, il y avait plus moyen d'exister politiquement. Pour le Tarn-et-Garonne, par exemple, donc le Tarn-et-Garonne n'a jamais eu la possibilité de créer ce journal. Il y en a juste un qui s'appelait Le Vigilant, qui a duré jusqu'aux journées de juin 1848. Ensuite, ils ont cherché tous les moyens financiers pour s'unir pour faire ce journal. L'absence de ce journal est quelque chose qui aura été très fort pendant la Seconde République. Alors, pensez après.
On va marquer une pause. Histoire des Suds, nous allons conclure cette semaine d'histoire, de récits, de commentaires sur la résistance et les révoltes au coup d'État du 2 décembre 1851 dans le midi de la France. Pour le quart d'heure, nous sommes en compagnie de Jean-Paul Damaggio, historien du Tarn-et-Garonne et de tous les départements du bassin de la Garonne pour ce qui concerne cette résistance et ces révoltes contre le coup d'État. Il est l'auteur de deux ouvrages, 2 décembre 51, Une dictature à la française avec un point d'interrogation, et un autre ouvrage sur un personnage, Jean-Paul Rosier, dont il va nous parler à l'instant. Je signale que tous ces ouvrages se trouvent aux éditions La Brochure, en un seul mot, édition au pluriel, La Brochure, tout attaché, vous trouvez ça sur Internet. Ce Rosier, qu'est-ce?
Eh oui, donc ce Rosier m'a passionné quand je suis allé aux archives de l'Aveyron, que j'ai consulté le Républicain. Et il m'a passionné au-delà, évidemment, et c'est pour ça la passion un petit peu, au-delà de Rosier lui-même. Il faut comprendre, par exemple, un cas comme Daumier. Je vais revenir
à... Le caricaturiste,
dont tout le monde connaît. Le coup d'État, pour lui, c'est un assassinat de son art possible. Il faut voir ce que Daumier faisait avant le coup d'État, et ce qu'il a pu faire après. Et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intellectuels, bon, Victor Hugo, bien sûr, lui, ainsi migrant, il a pu faire vivre sa créativité. Pour Rosier, donc ce personnage est passionnant parce que il va travailler pendant 2 ans de manière régulière à articuler la culture populaire et la révolte politique.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Voilà, les contes. On sait que la tradition populaire, c'est les contes. Mm-hmm. Eh bien, lui, il va utiliser les contes occitans et il va les mettre en occitan dans son journal Le Républicain. Mm-hmm. Il n'utilise pas toujours l'occitan, d'ailleurs. C'est pas la question de la langue pour la langue, mais c'est la question de la langue pour la communication. Mm-hmm. Il va utiliser, par exemple, l'occitan pour que ces contes-là prennent une tournure politique, que ce soit les contes, que ce soit les fables, que ce soit les...
Si je vous entends bien, ces contes existaient éventuellement en français, il les traduit en occitan en leur donnant une coloration plus politique?
Ou ils existent en occitan et il les transforme en occitan pour leur donner une tournure politique. Il faut voir le contexte de l'Aveyron. Bien sûr, Bon, on le sait, l'occitan, les langues, comme on dit, régionales, sont souvent utilisées par la droite pour pouvoir asseoir un traditionnalisme. Les démocrates...
N'empêche que tous les révoltés du Var et des Basses-Alpes parlaient le provençal entre
bien
eux.
Bien sûr.
Mais voilà. Leurs journaux étaient écrits en français.
Voilà, bien sûr, parce que c'est cette contradiction qui est toujours très forte au sein de la gauche française. Et, est-ce que, en 1848 par exemple, il fallait obligatoirement, pour être démocrate, utiliser le français, la langue, on va dire,
de la
raison, de la liberté. Pour Rosier... Il est dans l'Aveyron, il connaît ses citoyens, il travaille avec eux, il est expert géomètre. Il a un pied chez les paysans et un pied à Sauveterre. Et par conséquent, cette double fonction, il ne veut se couper aucune des deux mains. Il joue sur le français, mais il joue beaucoup sur l'occitan avec cette idée. Cette idée que si j'utilise les veillées, il y a des veillées. Les gens racontent des choses aux veillées. Mais s'ils racontent quelque chose de politique, ça va mettre...
Et ça a été efficace.
Ça a été efficace. C'est sûr que ça a été efficace. Mmh. Et la preuve que ça a été efficace, c'est que c'est un de ceux qui a été le plus frappé. Que, après Rosier, nous aurons Mistral, du point de vue de l'image. Pour le Lot-et-Garonne, nous avons les Jasmins, qui vont être des courtisans, qui vont utiliser la langue occitane au profit du pouvoir, pour faire des œuvres de charité, tout ce que vous voulez. Ça, je ne conteste pas la qualité artistique de Jasmin. Je discute pas de cette dimension. Je discute de la dimension.
Sinon vous seriez interdit de séjour à Agen.
Bien sûr, je sais bien. Voilà. Mais je veux faire comprendre que en particulier Rosier connaissait très bien Jasmin, et il a fait un texte pour dénoncer. Il a fait un texte en occitan pour dénoncer cette duplicité de Jasmin.
Autrement dit, chez les occitanistes, il y avait un débat, peut-être qui dure encore sous d'autres formes d'ailleurs. Un débat entre ceux qui pensent que les idées n'ont rien à faire avec la langue qu'on parle et que voilà, et ceux qui pensent que la langue est chargée d'un contenu idéologique, disons.
Exactement, vous dites tout à fait les choses, vous posez tout à fait la grande question, qui n'est pas, et donc c'est pour ça que c'est passionnant, qui n'est pas qu'une question de Rosier. J'arrive du Mexique, j'étais dans une bibliothèque à Valladolid, il y avait lecture en maya. Je n'imaginais pas qu'aujourd'hui encore, le maya puisse exister.
Alors,
socialement.
Rosier, revenons à lui pour quelques secondes encore qui nous restent. Il avait un journal, il a fait des livres.
Il n'a pas fait de livres. Il travaillait avec le Républicain. Et donc, il a eu la chance que les directeurs du Républicain veuillent bien, parce que...
Publier
en occitan ses propres textes, parce que quand j'ai comparé avec le reste de la presse, c'est le seul endroit...
Parce que, par exemple, dans le Lot-et-Garonne ou dans le Gers, dans les journaux, le radical ou le réformateur dans
toujours,
le Gers...
Toujours du français, ou alors peut-être une petite blague de deux lignes utilisant la langue d'oc. Mais lui, il en fait un drapeau, si je puis dire, de cette langue.
Mais il est le seul, quand même.
Et il est le seul,
dans le grand
sûr.
Sud-Ouest occitan, il est le seul.
Il est le seul, et donc il faut d'autant plus y porter attention, parce que, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça a été efficace? Je puis assurer... que ça a été efficace.
J'ai bien
dans
compris.
Le Gers, j'ai, dans
bien, j'ai bien compris que vous êtes un soutien de ce, comment était son prénom à ce Rosier?
Rosier,
Jean-Paul.
Jean-Paul.
Ça n'a pas d'importance.
Rosier. Je rappelle que Rosier, c'était.
D'accord.
Rosier chanté. Voilà.
Je rappelle. Merci d'être venu nous trouver au micro de Sud Radio.
Merci, c'est moi.
De clore cette semaine que nous avons commencé pendant 4 jours avec René Merle. Historien de la résistance et des révoltes au coup d'État du 2 décembre 51, notamment dans le Languedoc et en Provence. Mais là, aujourd'hui, nous parlions du bassin de la Garonne. Avec vous, Jean-Paul Damadio, auteur de 2 décembre 51, dictionnaire à la française, dictature à la française, point d'interrogation, et un ouvrage sur Jacques Rosier. Sur ce Rosier occitaniste, tout ça se trouve aux éditions La Brochure. Merci et on recommence la semaine prochaine.
Merci.